Un jour, pas comme les autres en Provence. Les cigales sortent tout juste de leur chrysalide. Les papeteries de Malocène, seule usine du village, doivent bientôt fermer, laissant 211 familles sur la paille. Les cyclistes du critérium du Dauphiné, chargés comme des mules, fendent la foule de la manif et attaquent le Ventoux, la tête dans le guidon. Les touristes redemandent un glaçon dans leur pastis. Un jour pas comme les autres en Provence.
Salut Daniel, c'est François. Je t'appelle, là, on revient avec Abdelaziz de chez notre imprimeur dans le nord de la France. Et il s'est produit donc pour aller chercher notre numéro 2 national du journal Fakir. Et il s'est produit une étrange coïncidence. Quand on est sorti de chez l'imprimeur avec les 5000 journaux dans le coffre de la camionnette, eh ben, aussitôt qu'on a repris la route, les freins ne fonctionnaient plus. Et donc on a failli mourir après un pont en descente puisqu'il n'y avait plus moyen de s'arrêter. Moi je trouve que c'est quand même une étrange coïncidence qu'au moment où on aille chercher les fakirs, on nous ait saboté notre disque comme ça. Donc on a plusieurs hypothèses sur ceux qui ont fait ça. C'est vraisemblablement l'écureuil de la caisse d'épargne qui est venu ronger les freins puisque c'est aux banques qui consacraient notre numéro. Ou bien alors c'est Sarkozy puisqu'on a dit que les sarkozistes avaient profité du désastre des banques. Ou alors c'est Dominique Strauss-Kahn. Peut-être aussi parce que bon, lui aussi, il a organisé le naufrage de la caisse d'épargne. Donc voilà, on a une série d'hypothèses comme ça et on ne sait pas encore laquelle retenir pour l'instant, mais on va mener l'enquête. Bon, en tout cas, on est bien vivant, on est de retour sur Amiens et puis à la semaine prochaine. Salut Daniel.
Salut Daniel, j'appelais pour te féliciter, enfin vous féliciter toute l'équipe pour la série de reportages sur la Bolivie. J'ai vraiment trouvé ça vraiment, vraiment très, très intéressant, vraiment très bien. Il y a une chose parmi d'autres qui m'a marqué, c'est que ce pays, donc comme ce continent, après la colonisation, l'esclavage, enfin, l'exploitation, la dictature libérale, quand on entend les acteurs de la révolution parler, une chose qui est vraiment évidente pour eux, c'est cette renationalisation des matières premières, des ressources, que ce soit le gaz, le pétrole, les minerais et l'eau. Et quand je vois ce qui se passe chez nous, où nous c'est l'inverse qui se passe, où petit à petit on privatise de plus en plus de choses, ça me laisse assez, ça me laisse à réfléchir.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est René de Montpellier. Voilà Daniel, continue à nous faire écouter des hommes remarquables comme le vice-président bolivien. Il réveille l'espoir.
C'est la crise et chacun fait des efforts. Alors, l'été approchant, depuis plusieurs semaines, le prix des carburants remonte. Et le PDG de Total est content.
Oui, bonjour. Je réagis à l'émission que vous avez faite sur les massacres qui ont eu lieu en Amazonie péruvienne et l'état d'urgence qui s'ensuit. J'aimerais annoncer à ce propos une manifestation à Genève qui aura lieu mardi prochain, 16 juin, de 12h à 14h sur la place des Nations devant l'ONU, en soutien à ce qui se passe là-bas. On pense que les droits des peuples autochtones sur leur terre sont les meilleurs garants face au changement climatique et qu'on ne peut vraiment pas laisser faire ça. Cette politique d'Alan Garcia est criminelle sa volonté de privatiser complètement l'Amazonie au détriment des droits acquis par les peuples autochtones, des droits collectifs, est un danger pour le monde entier. Donc si vous êtes dans la région genevoise, n'hésitez pas à nous rejoindre mardi prochain. Merci pour vos émissions, continuez comme ça. Alain de Genève.
Merci pour vos messages, chers AMG, auditeurs et auditrices modestes et géniaux et géniales. Aujourd'hui, on va faire le pouls de mer. Le pouls de mer, c'est Gilles Deleuze qui parlait du pouls de mer. Le pouls de mer rampe dans le sable, le nez collé sur un grain de sable, puis sur un autre, comme chacun de nous, la tête dans le guidon. Le pouls de mer ne voit pas plus loin que le bout de son nez de pouls de mer. Sauf que, et c'est la différence entre le pouls de mer et nous, sauf que le pouls de mer, soudain, fait un bond, hop, il saute en l'air, et là, un instant, il voit toute la plage, la mer, les rochers, les jolies baigneuses et les méduses échouées parmi les algues desséchées. Et ainsi, le pouls de mer peut se situer, peut s'orienter et retomber, la tête dans le guidon, sauf qu'il sait où il est. Il connaît les tenants et les aboutissants. Le pouls de mer est conscient du contexte. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec quoi donc ? Le Proche-Orient, le Proche-Orient. Chaque jour, on apprend une petite chose, un petit grain de sable sur le Proche-Orient. Mais jamais nous ne voyons, c'est bien rare, la plage et le paysage tout entier. Et c'est ce qu'a tenté Michel Warchavski. Michel Warchavski, vous le connaissez peut-être un peu, si vous suivez la basse, j'y suis. Il est israélien, c'est un militant anticolonialiste, un écrivain. Il est président du CIA, c'est-à-dire le Centre d'information alternative à Jérusalem, et il est donc c'est un homme engagé qui écrit des papiers politiques, etc. Mais là, il a une autre idée. Il s'est dit voilà, il faut qu'on ait vraiment une vue d'ensemble sur cette histoire, l'histoire des conflits israélo-palestiniens. Sauf que c'est une longue histoire et c'est une histoire compliquée. Aussi a-t-il eu l'idée de raconter cette histoire, un siècle d'histoire, mais à travers des histoires de famille. Il a pris deux familles, une famille juive européenne, la famille Harilib Friedman, et d'autre part, une famille palestinienne, la famille d'Abu Ahmad. Voilà, une famille Abu Ahmad, un fella palestinien de Birwi, près de Saint-Jean-d'Acre, d'une part, et d'autre part, Harry Friedman, le juif polonais, qui est pauvre et qui est pieux, et qui voit monter la rumeur des pogroms dans la Moldavie toute proche. Voilà, les deux familles d'origine, on va les suivre jusqu'à aujourd'hui. Ces familles, évidemment, et les générations, les quatre générations. Donc voilà, cette histoire incarnée à travers des hommes et des femmes pour tenter de raconter l'histoire de ces deux pays. Ben non, c'est pas encore le cas, mais de ce conflit, de ces gens qui se connaissent, qui s'ignorent, qui se haïssent et qui souffrent, évidemment, symétriquement. Symétriquement ou pas, parce qu'il y a toujours symétrie dans cette histoire. On dit 50 et 50. C'est pas ce qu'a fait Michel Warchavski. Il a entremêlé ces deux histoires. Il avait, vous vous souvenez peut-être, écrit un livre remarquable qui s'appelle « Sur la frontière ». Et sur la frontière, c'est sa position à lui, qui vit à Jérusalem, mais qui est toujours en contact avec le monde palestinien, donc qui est sur la frontière entre les deux mondes. Et il est accompagné aujourd'hui de Michel Siboni. Michel Siboni, elle est enseignante, et elle est porte-parole de l'Union juive française pour la paix, et elle a participé à cette ouvrage, Destin croisé, israélien-palestinien, histoire en partage. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Rive Neuve, qui publie ce bouquin baptisé roman, avec une préface d'Abraham Bourg. Vous vous souvenez de lui, on l'avait reçu dans La Basse, j'y suis. Voilà notre programme du jour de poule de mer que nous sommes. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de La Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel et bonjour à tous. J'ai entendu ce matin aux infos quelque chose qui me laisse perplexe. Angela Merkel et notre cher président Sarkozy soutiennent la candidature de Barroso. Mais dans la même phrase, ils disent « Nous soutenons la candidature de Barroso, mais nous attendons de voir son programme. » Ouais, je comprends pas tout. Moi, quand je soutiens quelqu'un, c'est parce que je sais ce qu'il va faire et je vote pour lui. C'était Paolo.
Bonjour, ceci est un communiqué adressé aux auditeurs et auditrices solidaires avec le peuple de l'Amazonie du Pérou qui lutte pour la défense de leur territoire. Depuis des mois, les Indiens de la région mènent une grève pacifique illimitée pour obtenir l'annulation des 11 décrets législatifs pour livrer l'Amazonie péruvienne aux multinationales dans les cadres des traités de libre-commerce avec l'Union européenne. Vendredi, le jour de l'environnement, la police nationale du Pérou a ouvert le feu depuis des hélicoptères et au sol sur un barrage routier qui tenait 5000 Indiens et a fait des dizaines de morts et une centaine de blessés. Le réseau de solidarité avec les nations indiennes du Pérou et de l'Amérique latine vous invite à participer au rassemblement contre la répression au Pérou. C'est samedi 20 juin à 15h au Trocadéro, Paris. Merci, au revoir.
Bonjour à tous. Avis aux AMG de Limoges et des environs. Le prochain repère de Limoges, c'est ce soir, 18h30, au bar Le Gousset, 41 rue des Combes. On n'a pas défini de thème, mais on trouvera bien des sujets de discussion. Alors à ce soir, et bonne continuation à toute l'équipe de là-bas. C'était Amandine de Haute-Vienne.
Je viens d'entendre Jacques Lang qui a dit que le Parti Socialiste est un parti vermoulu. Et mais il fait allusion à qui, ce monsieur? Et vous vous rendez compte par qui on a été gouverné et qui a encore la prétention de vouloir le gouverner? Allez, ciao à tous.
Oui, bonjour à tous, c'est Edian de l'Ardèche. J'ai écouté Brice Hortefeux ce matin concernant la question des retraites. Et puis une fois de plus, on marche sur la tête parce que les trois mesures envisagées sont notamment l'allongement du travail jusqu'à 67 ans, la diminution des pensions, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire que des mesures qui prélèvent encore un petit peu sur l'ouvrier, sur celui qui travaille. Et à aucun moment, il a été question de prendre un petit peu sur les revenus du capital et des choses comme ça. Voilà. À bientôt, au revoir, continuez.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Michel Warchavski, Destin croisé israélien-palestinien, l'histoire en partage, aux éditions Rive-Neuve, et aussi avec Michel Siboni. Un petit livre avec beaucoup de monde à l'intérieur. Hein. En 227 pages, il y a des centaines de personnages qui défilent dans ce livre, le dernier livre de Michel Warchavski, Destin croisé, et israélien, palestinien, histoire en partage. Ça sort aux éditions Rive-Neuve, une petite boîte d'édition. Et c'est une histoire passionnante. Passionnante parce que Michel Warchavski, qui connaît bien le Proche-Orient, Israël, Palestine, raconte un siècle d'histoire à travers quatre générations de deux familles. Hein, une famille juive, qui devient israélienne, pas complètement, une famille palestinienne, et donc quatre générations, un siècle, et une façon de voir cette histoire qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine, et avec un certain regard quand même, Michel, hein, c'est quand même votre regard.
C'est mon regard, et c'est, je crois, c'est peut-être le défi de ce livre, un regard, un qui est le mien, mais un et pas... Deux, on est à l'époque des récits, selon lesquels les Israéliens auraient leur récit, les Palestiniens auraient le leur, et chacun, tous les deux se vaudraient, même s'ils sont contradictoires. J'ai jamais vraiment cru à cette façon de raconter l'histoire, l'histoire-histoire ou l'histoire contemporaine, et je pense qu'on peut raconter une histoire partagée de cette terre, et c'est l'histoire effectivement de cette terre, d'un lieu où se déroulent 100 ans de conflits, mais aussi de rencontres, d'échanges entre juifs et arabes, israéliens et palestiniens.
L'égérie, l'inspiratrice un peu de ce bouquin, c'est Michel Siboni, qui est la porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Je ne me suis pas trompé, Michel.
Bon, c'est parfait.
Très bien. Et qui a eu l'idée de ce livre. C'est ça au départ?
Non, pas du tout. Bon. J'ai été... Je crois avoir suggéré la forme à un moment donné. Ce livre a une histoire complexe. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on est heureux qu'il
sorte,
qu'il ait vu le jour, oui, parce que sa conception était complexe. On avait proposé une maison d'édition avait proposé à Michel de lui donner carte blanche pour un programme d'accompagnement du cours d'histoire de terminale autour du conflit du Moyen-Orient. Il avait carte blanche et vraiment il pouvait faire ce qu'il voulait. Mmh. Et je crois avoir suggéré la forme du roman à un moment donné, de la saga, au fond.
La première commande, c'était « Faites-nous un livre pour les lycéens racontant le conflit du Proche-Orient depuis un siècle ».
Voilà, qui aide les élèves, parce qu'on a l'habitude de dire que c'est quelque chose de compliqué, de complexe, et donc qui aide les élèves, mais je dirais surtout les profs, à traiter du sujet d'une façon qui soit accessible et compréhensible, sans être simpliste.
Ça, c'était votre premier livre de fiction ?
Oui.
Avec livre de fiction, une part de fiction.
Voilà, une part de fiction. C'est pour ça que j'aime pas ce qu'il y a écrit sur la couverture, roman. C'est pas un roman, ce serait prétentieux de dire que c'est un roman. Au contraire, je dirais quelque part, les personnages n'ont pas la profondeur de personnages de roman. Ils sont intentionnellement très typés pour représenter des réalités moins psychologiques que sociologiques. Chacun représente un pan, un aspect, une nuance, une sensibilité dans chacune des communautés.
Le bouquin commence avec une évocation de ce qu'était la Palestine avant, c'est-à-dire avant la chute de l'Empire ottoman. Il y a déjà, on commence par une peinture de ce qu'était ce monde-là. Puis après, on ira en Pologne, près de Lodz, et on a la peinture d'une famille. Mais c'est vrai qu'on commence par cette première évocation. Moi, ça m'a frappé. C'est pourtant, on est censé savoir, voilà, il y avait une communauté juive, chrétienne, arabe, musulmane qui vivait là, en bonne entente, et l'Empire ottoman va s'écrouler.
Ce qui est antérieur à la venue des Britanniques, c'est-à-dire à la fin de la Première Guerre mondiale, et de la partition de l'Orient arabe entre la Grande-Bretagne et la France, c'est, sur cette terre, une véritable communauté, à la fois multiconfessionnelle, musulmane, chrétienne et juive, vu les enjeux culturels, historiques, religieux. Ça a toujours été une terre où des communautés différentes vivaient, mais vivaient dans une harmonie réelle, bon, sans faire d'angélisme et d'idéalisme. Il y a toujours eu des conflits, mais pas plus qu'il y a eu des conflits dans l'histoire européenne relativement moderne, entre les communautés, entre des régions. Et c'est l'intervention extérieure, dans ce cas britannique, qui va, d'ailleurs, en faisant intentionnellement des promesses contradictoires, c'est le premier chapitre du livre, justement, promettant aux Arabes, pour leur soutien dans la lutte contre les Ottomans, la constitution d'un grand État arabe, et promettant par ailleurs, par le biais de Lord Balfour, à Chaim Weizmann, au dirigeant du mouvement sioniste, un foyer national juif. Dès lors, on est au début du conflit. Jusque-là, on a des communautés qui coexistent. Là, on a deux projets politiques contradictoires qui vont exploser.
Oui, mais il y a aussi le projet sioniste.
Le projet sioniste qui, jusqu'à la déclaration de Balfour, est un rêve. est un rêve, à tel point un rêve que c'est même pas certain qu'il va se faire en Palestine. Herzl va, oui, on propose, oui, Madagascar, oui, on propose l'Ouganda, et c'est l'idée de résoudre la question juive d'Europe de l'Est, et donc résoudre la situation des juifs de l'Europe centrale et occidentale qui veulent pas avoir tout d'un coup ces juifs primitifs venir faire obstacle à leur émancipation, à leur assimilation, qui leur disent, ben, on va leur trouver un endroit où ils pourront vivre entre eux et échapper ainsi à l'antisémitisme. Et les Britanniques, et c'est ça 1917, en fait, la déclaration Balfour, donne à cet objectif qui semble un peu loufoque, une perspective politique. Mm-hmm. Dans un marchandage, nous serons, et ça, cela traverse toute l'histoire et tout le livre, nous serons l'avant-garde de la protection des valeurs, aujourd'hui on dirait occidentales, judéo-chrétiennes, face aux barbares.
Oui, c'est ça. Mais il y a une double aspiration. Il y a l'aspiration pour les Juifs d'avoir un État, de constituer un État. Et du côté arabe également, il y a l'aspiration. On est dans l'époque des États-nations. Donc, chez les Arabes de cette région-là, il y a la même aspiration. Enfin, il y a une symétrie.
Tout à fait. Et sur un même espace aussi. C'est-à-dire, si le projet sioniste se réalisait sur la Lune, il n'y aurait jamais eu de problème ou de conflit israélo-arabe. C'est parce qu'il n'entrait pas en conflit avec une autre réalité et une autre aspiration. S'il s'était passé 150 ans auparavant, peut-être aussi. Mais au moment du réveil du nationalisme en général et du nationalisme arabe en particulier, lui-même, en plus encouragé par les Britanniques, venir établir consciemment une colonie qui se situe immédiatement en tension, en conflit avec la région, c'était lourd du conflit qui allait venir. Et en ce sens-là, il y a une cohérence de 100 ans.
Destin croisé, le dernier livre de Michel Warchavski, un siècle de conflits et d'histoire israélo-palestinienne à travers deux familles et quatre générations. Et alors, j'évoquais la peinture de ces communautés juives de Pologne, et on a des personnages effectivement emblématiques, des courants caractéristiques de ces communautés, où on a un personnage qui est très près de la religion, de la Torah, un autre qui est sioniste, déjà, et un troisième qui est au Bund, c'est-à-dire qui appartient et qui milite pour ce mouvement politique qu'on n'a eu pas seulement en Pologne, mais enfin essentiellement en Pologne. Est-ce que vous pouvez évoquer ces trois tendances, puisque ces trois personnages qui caractérisent aussi ce
mouvement? Je dirais qu'il y en a plus, et en fait, c'est dans ce repas qui se fait lors de la soirée de Pâques, où les enfants se réunissent, j'ai essayé de mettre face à face les différentes options qui se posaient. L'une, c'est l'assimilation. C'est Heinrich, je crois, qui veut être un Allemand. Il va aller en Allemagne et perdre sa judaïcité, qui pour lui est un résidu d'une période qui devrait se terminer avec la modernité. Il y a le choix de l'immigration. Pour fuir l'antisémitisme, on va aller aux États-Unis où on peut construire une vie nouvelle. Il y a le choix d'un combat, que l'antisémitisme fait partie de l'ordre politique et social contre lequel le mouvement socialiste, dont le Bund, contre lequel le Bund combat. Mais combat dans une perspective universelle. Résoudre la question juive dans le cadre d'un bouleversement, l'écroulement du régime tsariste, l'émergence d'une société égalitaire, où il n'y aurait plus de problème juif, il n'y aurait plus de problème du tout. Dans l'idéalisme, on aurait résolu tous les problèmes, dont le problème juif. Et puis il y a l'idéal de la famille, qui dit, ah mais moi j'ai entendu parler d'un mouvement qui s'appelle le sionisme, où on va en Palestine créer notre État à nous. Et il provoque un éclat de rire tout autour de la table. Et c'est la petite sœur qui dit, bon arrête, toi t'es pas le plus malin d'entre nous, arrête de rêver. Je crois que c'est très représentatif des enjeux et des façons de résoudre la question juive, qui est la question qui obsède et qui est là en permanence dans, en Europe de l'Est, d'un antisémitisme omniprésent, et le sionisme étant, je dirais, à l'époque, la réponse la plus loufoque, qui semble la moins réaliste, la plus rêveuse et la moins soutenue. Et jusqu'à Hitler, reste un courant totalement marginal.
Et c'est la montée, évidemment, du nazisme, et donc de l'antisémitisme, qui va pousser ces Juifs d'Europe vers la Palestine.
Tout à fait, qui va transformer ce que j'appelle dans le livre un rêve hippie, de faire des communautés agricoles, comme on le fait en Ardèche, marginales et décalées par rapport au monde réel, en un projet moderne. Pour la première fois, s'installe en Palestine, fuyant Hitler, pour beaucoup provisoirement, croyait-il, un savoir-faire des intellectuels, du capital, des banquiers, des entrepreneurs. C'est l'époque florissante de l'université hébraïque, c'est là que commence ce centre extrêmement performant qu'est l'université hébraïque, c'est là que se développe l'Institut Weizmann, tout ce qui va faire la gloire d'Israël en termes de recherche, mais aussi en termes de culture. C'est l'entrée du projet sioniste dans la modernité et dans la réalité. Là se crée le début d'une véritable société, et plus simplement des pionniers qui sont dans des communes agricoles, quelque part en Galilée. En ce sens, on ne peut pas comprendre le succès du projet sioniste si on ne le met pas en relation avec ce qu'a signifié le nazisme et l'extermination du monde juif d'Europe de l'Est. Un monde qui, lorsque les rescapés veulent y retourner, ne trouvent plus rien. Et donc sont poussés par l'histoire, non pas par un choix idéologique, on va aller construire notre État, pas du tout. Sont poussés par l'histoire sur les côtes de la Palestine. C'est un peu exodus, si on veut.
Oui, sauf que sur ces côtes de Palestine et sur cette Palestine, il y avait des habitants, contrairement à ce qui se disait, la fameuse phrase d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, il y avait des habitants sur cette terre-là, il y avait les Arabes étaient là, et vous décrivez les guerres des années 30 entre Arabes et, alors comment on disait, ben, Juifs.
Entre...
Les guerres judéo-arabes. Michel ?
Ben oui, puisque Israël n'était pas encore là.
Il n'existait pas encore.
Forcément, on parlait des Juifs. C'était les Juifs qui venaient et dont le nombre augmentait et qui inquiétaient dès le début du livre. Hein, quand même, l'inquiétude est sensible. On est en 1912 au début du livre. Donc on voit arriver ces gens qui s'installent et qui s'installent pas pour vivre, comme ils disent eux-mêmes, les membres de cette famille. De Birui, ils veulent pas vivre avec nous comme ceux qu'on connaît déjà, ils veulent le pouvoir, quoi. Donc il y a cette inquiétude qui monte et qui va culminer autour de la grande révolte, de ce qu'on appelle la grande révolte.
Voilà, Haïfa, avril 1936, Ahmad et son oncle Abdallah font des va-et-vient le long des grilles qui entourent le port d'Haïfa. Ils sont parmi les plus actifs et les plus déterminés de ce piquet de grève qui empêche la remise en marche des installations portuaires. Ainsi, dans Destin croisé, Warshawski incarne l'histoire avec des personnages. Alors ça se fait souvent, mais la plupart du temps on fait dans le romanesque, c'est-à-dire qu'on donne à ces personnages une épaisseur, une profondeur psychologique, des sentiments, etc. Ce qui est très bien, ce qui nous passionne, qui nous rend l'histoire passionnante, mais l'histoire de ces personnages plus que l'histoire tout court. L'idée là est de nous faire comprendre l'histoire à travers des figures emblématiques. Alors, le livre paraît ces jours-ci, évidemment, en français, puisque c'est une édition française. Mais est-ce que le livre existe en hébreu ?
Non, il n'existe pas en hébreu.
Une édition israélienne ? Parce que ça va passionner les Israéliens. Et donc, enfin, espérons aussi les Palestiniens.
Ben justement, Avram Bourg, le préfacier du livre, m'a dit, c'est très bien ce livre, mais ce n'est pas en français qu'il faut le publier, c'est pour nos enfants, en hébreu. À quoi je lui ai dit, je crois qu'il va se mettre à la tâche, je lui ai dit, tu étais l'ancien président de la commission de l'éducation du Parlement, tu as tous les contacts, à toi de me trouver un éditeur, moi je me charge de la traduction. Et je crois qu'il s'est mis à la tâche, il va me trouver un éditeur. Je veux maintenant, j'y pense, plus je le veux. On le publiera en hébreu et on le publiera sans doute en arabe.
Alors comment vous avez travaillé, Michel et Michel ? Michel Siboni a...
Non mais c'est Michel qui a travaillé, c'est son livre.
Il vous a soumis des chapitres, des corrections.
Voilà, je pense que c'est peut-être là que j'ai pu jouer un rôle, c'est parce que je suis prof de lettres-histoire en lycée professionnel. Et ça m'avait parlé l'idée de comment on raconte cette histoire-là, qui est quand même tellement douloureuse et violente, et l'idée de l'incarner. C'est vrai que je pensais à des jeunes gens de 18-20 ans, qui sont parfois mes élèves, comment leur raconter cette histoire ? pour sortir du conflit haineux. Comme... C'est ce que j'adore dans ce livre, en fait, hein, pour tout dire. C'est, personne n'est détestable, franchement, dans ce livre. Il y a un côté où, à la fois, les choses sont dites, et elles sont dites pour tout le monde. Et puis, il y avait cette idée aussi, qui est, dont il a parlé au début, qui est très importante, c'est... Il n'y a pas deux récits symétriques ou parallèles. Ce parallélisme et cette symétrie, ça a tué beaucoup de gens hein, dans cette histoire, dans l'histoire récente. Il n'y a pas de parallèle et il n'y a pas de symétrie. Il y a une histoire. Il y a l'histoire d'une terre avec des gens qui vivent dessus, importés ou autochtones, et qui parfois s'affrontent, parfois aussi se rencontrent, parfois essayent, et ça ne marche pas. Tragiquement, ça ne marche pas. Mais ça pourrait marcher. Et cette sensation-là qu'il y a une histoire, que ces gens vivent sur cette terre, et finalement le titre n'est pas si mauvais, l'histoire en partage. Il faut arriver à s'approprier d'un seul récit. Voilà.
Vous êtes persuadés, tous les deux, vous êtes des militants de la paix, vous êtes engagés, Michel Siboni en France, mais enfin vous connaissez bien Israël, Michel Warshavski en Israël, mais vous connaissez bien la France. Vous êtes persuadés que... Il y a une solution possible.
Là, il y a deux fins différentes. Lorsque le livre avait été commandé, c'était encore l'époque de l'espoir d'un déblocage du conflit, d'une perspective bon, qui prendrait du temps, qui serait difficile, mais d'une réconciliation interne. Et donc, il se terminait par un mariage. Symboliquement, un mariage entre les jeunes des deux familles qui se rencontrent dans une université en France et qui s'aiment et qui se marient. Et ça devait se terminer symboliquement par cette rencontre. Puis il y a eu 2000, la reconquête, la recolonisation, ce qu'on appelait l'opération Rempart, dans une brutalité, je dirais presque sans précédent par rapport aux années d'avant. Et ça se termine par un attentat suicide, la deuxième fin. Puis il y a eu, puisque ça a pris encore du temps, et pour actualiser un dernier chapitre, où j'ai voulu prendre du recul, de sortir de ce ballet sanglant, cette valse entre Israéliens et Palestiniens, et prendre une dimension internationale à travers ces personnages extraordinaires que sont ces jeunes internationaux qui viennent exprimer leur solidarité dans des actions de boucliers humains, de solidarité diverses, et avec le personnage de Rachel Corrie, qui porte ici un autre nom, qui est cette internationale qui est venu s'investir en Palestine, poussé par un sentiment de justice et d'injustice, et qui se fait assassiner par un bulldozer israélien.
Oui, mais quand on voit l'opération plomb durci à Gaza, on n'a pas de quoi être optimiste.
Ah ben, j'irai plus loin. Heureusement que le livre était déjà imprimé lorsqu'il y a eu le carnage de Gaza. Parce qu'il se peut que je l'aurais mis à la poubelle.
Le livre
Oui, c'est-à-dire que j'avais plus envie à un moment. Il ne peut plus y avoir de happy end. Il ne peut y avoir qu'une fin apocalyptique, que je n'ai pas envie d'écrire. Et donc, on ne parlera pas du livre. Il n'y aura pas de livre. Mais le livre était déjà imprimé. Aujourd'hui, si je devais écrire un nouveau chapitre, la fin, elle serait terrible. Elle serait terrible, ce ne sera pas du tout le mariage, ni la coexistence tendue entre des peuples, à moins peut-être l'émergence d'un facteur extérieur. On est dans une réalité de guerre totale. شوي عم بتعتم تمر البيت عشان جبن حيط فجأة تنهم بتلثم بس أنا يبيني موارف قناص معي الصاص بستنى في الباص بركي صبتك من راس عين تستنى وعين تتمنى يكون في طريقة تانية مش عارف رأيي بتغير كل ثانية عالي طار كار مثل النار حامية أنا مين ضحية سيات الخاينين المحتلين المتحكمين في البني أدمين إحنا كلنا رشو عايشين ولا ميتين المشكلة إننا مش عارفين الجنة صارت حرب أهلية من جواي بين الخير والشر الانتقام في دمي بس بعد كل عملية شعبي اللي بينضر كمان فلسطيني بينطر من بلده فجأة البصمار أصبعي بده يطلق بس إيدي بدها تترك فلسطين أنا مثلك محتار ومنهار محروم من حقي على الآن بين خيارين ومش عارف شو أنقي الحياة ولا الموت بس صرت عم بسمع الصوت بس صرت عم بسمع الصوت West controls bank the funds, the tank that sweeps the planes off Gaza stripped of dignity, pride, nowhere to run to, nowhere to hide You robbing home from school just died, two siblings eyes open wide by side Sister hurry up, brother salam, cry
cry freedom, cry peace, generosity, deceased, decapitated, destruction, created, hatred, homeless, camped out, refugee, Rafa, catastrophe, Nakba, ethnic cleanse and attack the native population, occupation, under, nighttime Apaches, thunder, fighter, just like Empire Rome, cats on the prowl, bulldozing, home alone, debris, defender, clutch stone, cold without Steve's, Austin Powers, watching towers, raining bullet showers, soil unfit for flowers, curfew minutes, similar hours.
عايشين كل يوم يا عادل يا مقتول كل واحد يمسك السلاح وخرطش يهجم على طول ما في حل الا هيك حط الشقفة بيديك وقف على رجليك وهجم على العدو قبل ما يهجم عليك هيك تعلمنا واحنا صغار هلا صرنا كبار راح يصير دمار يعني راح يصير دمار عشان نتذكر الصهاينة باللي صار حاولنا ضرب حجار بس طلع قرار لا في وقف اطلاق الناس ومن تحت الحصار كل يوم قاعدين في الدار دم بفار افكار كيف نخلي اسرائيل تنهار اصوات من برا طخ وقصف انفجارات ونسف مكبرات صوت ممنوع التجول التجول ممنوع بس لما احكي حيكون صوتي المسموع علم المرفوع تغيرش الموضوع ايوه هيك تغيرش الموضوع
Ça fait 40 ans, Michel Warszawski et Michel Siboni, un peu moins parce que vous êtes beaucoup plus jeune, mais que vous militez l'un et l'autre. Est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit, ça y est, on y arrive ?
Je ne dirais pas que j'ai cru qu'on touchait au but, mais que quelque chose était en train de se débloquer et pouvait ouvrir un nouveau possible, mettre fin à de nombreuses décennies de colonisation et de rapports coloniaux. Oui, j'y ai cru.
À quel moment ?
Pendant la période d'Oslo, et je dirais d'une façon plus élargie, c'est pas seulement la période d'Oslo, depuis la guerre du Liban de 82, lorsque en Israël, pour la première fois, il n'y a plus de consensus. Après avoir vécu des décennies de consensus total, où il n'y avait pas de droite et de gauche, où les débats entre droite et gauche, et laïque et religieux, étaient sur des questions marginales et internes à la société israélienne, mais dans la relation au monde arabe, dans la relation aux Palestiniens, il y avait un consensus large. 82, pour la première fois, c'est la fin du consensus. C'est la fin de l'union sacrée. Et en pleine guerre, des centaines de soldats, c'est une de mes fiertés, c'est d'avoir été partie prenante de ce mouvement, refusent d'aller au Liban, vont en prison. Pas pour longtemps, mais expriment en disant « Non, on marche plus. On n'y croit plus à votre histoire. C'est pas vrai qu'on est attaqué. C'est pas vrai qu'on est en train de se défendre. » Et là s'ouvre, après tellement d'années d'absence de discours alternatif, sauf une marge radicale, mais totalement marginale, il y a deux voies israéliennes. C'est le sens d'ailleurs des documents qu'on avait publiés dans notre livre « Les autres voies israéliennes ». Entendre, et plus dans une position marginale, mais qui viennent du cœur de l'establishment intellectuel, quelqu'un comme Avraham Bourg, quand même l'ancien président du Parlement, qui exprime de façon diverse et dans des degrés divers de radicalité, une opposition à cette politique. Et là, moi, parce que je suis sans doute optimiste de nature, j'y ai cru, en disant ça va être long, on est encore loin d'une remise en question sur les fondamentaux d'Israël, le colonialisme, la colonisation, la reconnaissance d'un principe réel d'égalité, et qui implique toujours la question des réfugiés, c'est-à-dire c'est le test, le droit au retour, la possibilité du retour des Palestiniens. C'est donc la remise en question du concept même et de l'idée même de l'État ethnique, de l'État juif comme État ethnique. Non pas culturel, ça me dérange pas, au contraire, même un État qui développe une culture, une identité. Mais là, c'était ethnique, c'est un État à nous et à nous autant que possible uniquement. Cette remise en question n'a pas encore eu lieu, mais elle pouvait se développer petit à petit. C'est une nouvelle génération aussi, dénationalisée, je dirais mondialisée. Individualisé aussi, ça c'est l'aspect négatif, mais j'y voyais quand même quelque chose, à travers mes enfants d'ailleurs, quelque chose de positif. Sortir d'être les soldats de la nation, d'être à construire un projet national par une méthode coloniale, et essayer de construire une normalité. Donc j'y ai cru fortement, peut-être parce que 40 ans, ça veut dire une longue période d'isolement total. Et cette ouverture pendant la guerre du Liban, et qui a continué après avec la première intifada, avec l'émergence, avec véritablement un mouvement pacifiste de masse, un mouvement anti-occupation de masse, très diversifié, très problématique souvent dans ses revendications, avec beaucoup de contradictions internes, mais qui crée quand même une dynamique pour la première fois après des décennies de gel total ou d'absence totale de pensée hors la pensée unique.
Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est dans la régression. Alors je dis aujourd'hui, c'est hier. Je dis aujourd'hui, c'est juste le discours d'Obama. C'est-à-dire, et je dirais pourquoi Obama, c'est important. Aujourd'hui, on est dans la régression. Pendant ces 40 dernières années, je parlais de beaucoup d'isolement. Au début, énormément d'isolement, d'être vraiment quelques dizaines de loufoques contre tout le monde, mais je ne me suis jamais senti mal comme je me suis senti mal avec Gaza, avec le carnage de Gaza, non pas à cause du carnage, si aussi, évidemment, de ces images atroces qu'on voyait à la télévision, parce que la télévision nous montrait quasiment tout, mais de l'absence de réaction. À part quelques
dans l'opinion israélienne.
Dans l'opinion. Et dans ce qui avait été le mouvement de la paix, qui quand même avait été une opinion large, voire majoritaire à certains moments. Un silence total, un soutien, ou un soutien passif en tous les cas, total. J'avais parlé dans cette émission, enfin, vous aviez mentionné le fait que je chante dans une chorale.
Oui.
Depuis, je ne suis pas revenu à la chorale. Je ne peux plus revoir ces gens qui sont justement l'Israël intellectuel, modéré, de bonne famille, cultivé. Mais je sais qu'ils ont applaudi ou qu'ils ont été, dans le meilleur des cas, totalement indifférents. Aucune réaction de révolte humaine par rapport à ce qui s'est fait. Je ne peux plus chanter avec eux. Je n'ai plus remis les pieds à la chorale. Je ne peux plus voir des voisins à moi avec qui on échangeait. On n'était pas sur les mêmes lignes politiques, mais on pouvait boire le café ensemble. Je ne suis plus capable de le faire. Peut-être ça reviendra. Mais pour l'instant, je ne suis plus capable. C'était, pour moi, il y a une ligne d'humanité qui s'est tracée à Gaza et où, malheureusement, du côté de l'humanité, on était quelques milliers.
Est-ce que ça veut dire que ce gouvernement actuel en Israël reflète l'opinion israélienne ?
Tout à fait. Tout à fait. Un gouvernement d'extrême droite qui a été élu juste après Gaza, par une grande majorité, la disparition de la gauche. Même le mouvement travailliste en général, mais la gauche travailliste et le Meretz, qui était quand même un pôle important, qui faisait 10-15%, est absent, enfin, un groupusculaire. Alors, je disais qu'il y a quand même une chose à dire avec Obama. Israël est extrêmement, totalement dépendant des États-Unis, mais aussi dépendant, ça c'est au niveau de la psychologie, dépendant de comment on est perçu par les États-Unis. Est-ce qu'on nous aime ou est-ce qu'on ne nous aime pas ? On revient toujours à cette question. Est-ce qu'on nous aime en général dans le monde, mais certainement aux États-Unis ? Et le fait qu'il y ait un hiatus, un fossé qui va aller en grandissant, entre une nouvelle administration américaine avec une conception d'apaisement, apparemment, au niveau de la politique internationale et au Moyen-Orient en particulier, parce que c'est les intérêts des États-Unis après l'échec de la politique de la guerre globale de Bush, et un gouvernement plus néoconservateur que ça, on meurt. C'est-à-dire Benjamin Netanyahou a inventé le néoconservatisme, a été un des penseurs du néoconservatisme dans les années 80. Là, il y a un clash qui s'annonce, et si aujourd'hui on est quelques-uns à ne pas cacher notre joie à voir les dirigeants israéliens transpirer, on sait qu'ils vont transpirer encore et encore au moment à venir où ils vont devoir s'aplatir.
Michel Ciboni, la même chose vue de France, vous êtes porte-parole de l'Union des Juifs Françaises pour la paix.
Moi je me rappelle que l'horreur que j'ai ressentie quand j'étais en juillet-août 2006 en Israël, quand on vit en France, enfin, et qu'on n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas idée de ce que c'est qu'un consensus de guerre, comme celui qu'il y avait en Israël autour de la guerre du Liban et qui se reproduit autour de Gaza. C'est d'une férocité, c'est terrible. C'est terrible humainement. En même temps, moi, je crois que les opinions, ça se travaille. Et c'est fabriqué. C'est travaillé. C'est ça que je veux dire, hein, bien sûr. C'est travaillé. C'est fabriqué. Et je crois que c'est réversible. L'histoire le montre tous les jours. Je crois que le symptôme israélien le plus travaillé par les pouvoirs israéliens, c'est celui de la relation à l'autre. C'est le plus problématique. Et inclut le... En plus, il faut qu'on nous aime. Personne ne nous aime, nous sommes les exclus du monde, tout le monde veut nous détruire. La société israélienne d'aujourd'hui, pour permettre Gaza, il faut qu'elle croie à ça très très fort. Il faut qu'elle croie à ça tout le temps et très fort. C'est-à-dire l'autre disparaît. Et l'espoir qu'il y avait, c'était le moment où l'autre pouvait être entendu et accepté. Et c'est ça qu'il faut retravailler. Et dans l'aujourd'hui, effectivement, on a... Nous, ce qu'on attend, c'est une communauté européenne forte. Et là-dessus, les élections sont un petit peu inquiétantes, les dernières élections européennes, qui maintiennent ou renforcent les droites européennes. Nous, on attend une Europe qui soit capable de dire à Israël « Stop, ça suffit !» Ce que Obama est en train de tenter de faire. Et entre nous soit
là-dessus,
dit...
L'Europe est muette.
Non seulement elle est muette, mais elle parle de renforcement de l'accord d'association Israël-Union européenne, hors contexte. En disant qu'il ne faut pas connecter ça au contexte politique. C'est-à-dire, plus c'est monstrueux ce qu'ils font, parce qu'en fait c'est une vraie connexion avec contexte en réalité, c'est le contraire de ce qu'ils disent qu'ils font. C'est que plus Israël est meurtrier comme avec Gaza, et plus on va renforcer l'aide avec Israël. L'espoir qu'on a, nous, c'est que c'est inaudible. C'est que ça n'est plus audible dans la rue française. Que tous les gens que nous pouvons rencontrer dans la rue n'y sont pas. Et refusent de suivre cette Europe-là. Et pour eux-mêmes, et pour leur retraite, et pour leur sécu, et pour leurs hôpitaux, et pour leurs écoles, et pour la Palestine. C'est pas possible d'un monde comme celui-là.
الظلال للصدى طوق إلى حضن الدلال للندى لون احتضار كالغروب لليالي سرها يكسو وساها للندامة خمرهم ما لي سواها للأسى بيت كجسم مطمئن في أخفي ما بدا للناس مني منا
Michel ?
Le prochain bouquin, peut-être, raconter ce qu'a été la vie à Gaza. La vie à Gaza, mais focalisée autour de ces journées de massacre, de ces journées terribles et du siège qui dure maintenant depuis des années. J'ai eu la chance de rencontrer une Européenne, on va devenir amie, je suis sûr, qui vit à Gaza depuis longtemps et on a passé une soirée, ce qu'elle racontait, tout en lisant les journaux et essayant d'avoir le contact, un contact aussi serré que possible. C'est un monde entier que je voudrais faire partager. Qu'est-ce que c'est que Gaza, vraiment ?
Trois ans de siège.
Mais pour ça, il faut y aller.
Impossible.
Vous pouvez y aller ? Non, en tant qu'Israélien.
En tant qu'Israélien, c'est totalement bouclé, c'est totalement impossible. C'est illégal, mais ça ne me dérange pas. C'est aussi illégal d'aller à Bethléem et à Ramallah, et je ne me gêne pas de le faire. Mais à Gaza, c'est absolument impossible. Parce que je ne sais pas nager, en plus. C'est-à-dire, je pourrais venir peut-être par la mer en nageant, mais je ne sais pas nager. Et alors, il y a toujours encore les tunnels. Ce serait convaincre des Palestiniens...
De passer par l'Égypte.
Bon, c'est une grosse aventure. Pour l'instant, c'est hors de question d'aller à Gaza. Pour l'instant, mais ça reste... je me suis juré à moi-même que je ne mourrais pas avant d'être allé, encore une fois, dire au revoir aux nombreux amis Razaouis que j'ai. Et avec lequel je continue à communiquer par téléphone ou par email, mais je veux voir leurs enfants, aujourd'hui leurs petits-enfants, je veux qu'on se rencontre encore. Et donc j'irai à Gaza, je ne sais pas comment, mais j'irai. Mais pour l'instant, c'est totalement impossible. D'ailleurs, il y a juste titre, le gouvernement à Gaza nous a fait savoir qu'il ne veut pas qu'on vienne non plus, parce que c'est un problème de sécurité. Comment garantir, il manquerait plus que ça, qu'il y ait des Israéliens à Gaza et qu'ils se fassent par un fou, un commando ou un gang se fasse assassiner ou kidnapper. Le gouvernement palestinien à Gaza a assez de problèmes, il n'a pas besoin de ça en plus, donc c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Merci à tous les deux.
Ik hou wel veel van koffie, drink de Shabbos-wijn. Eet gefilte vis, maar nooit eet ik geen zwijn. Ik ga dan naar de markt, haal kip voor in de soep. Voer de Joodse handel, ai, ik voel me goed. Die Shikse is wel mooi, heel goed toch voor een gooi. Maar een medelijk voor mij, abieke zin, zo zei en zij. Ik ga dan naar de shul, trek een grote schmoel. Schmeigel met een bijgel, begrijp wat ik bedoel. Toch zie je mij wel lernen, geheel uit de Torah. Ontwikkel en verwikkel, mezelf als een gabber. S'avonds aan de koning door, weer schikker word ik dan. Ik voel me heel gezond als een gesiet in Amsterdam. Maar vrijdag ben ik wel. In de snogen is een groppen, ik trek hard aan de bel. Mijn jatten zijn zo koud, de hele dag gesjouwd. Tonnetjes met pekelharing en veel zout. De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama. Roddels heen en weer, ik zit op de kezenkoegen neer. Jongetjes met pijers, rebbers met een baard. Togers met fruitschalen en meisjes met een taart. De kalle heeft een gozer aan de haak geslagen. Als ze zijn getrouwd, dan begint al snel het klagen. Zeg mosje, die lever is niet koosje. En zag je dat je pak gestreken is voor de lawaaien vanmorgen? En hou dan toch eens op met het snorren rond het plein. Je weet dat ik met bezig in Jeruzalem wil zijn. Maar eigenlijk heb ik geen Rachmanus met die man. Want hij leeft als een gelukkige gassiet in Amsterdam. Hey!
Merci à tous, merci à Michel Siboni et à Michel Warchavski. Je rappelle le titre de son bouquin Destin croisé, Israélien-Palestinien, l'histoire en partage aux éditions Rive-Neuve. Je pense que ce bouquin ferait un formidable scénario de bande dessinée. Et si jamais ça, vous êtes dessinateur, il y a pas mal de dessinateurs qui nous écoutent, ça me semble être une très bonne idée. Les éditions s'appellent Rive-Neuve. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter des quantités d'archives. Et dans le forum de là-bas.org, il y a un auditeur qui s'appelle Capitaine Kirk et qui explore ces archives. C'est formidable parce qu'il réécoute des émissions, il fait des analyses et c'est un très bon guide à travers les archives de là-bas.org. Et puis on est toujours à la recherche de Philippe de Vichy, cet auditeur qui nous a fait quelques messages, qui étaient très drôles et qui signait « C'est Philippe de Vichy », imitant évidemment qui vous savez, si jamais il vous écoute, si jamais vous le connaissez, dites-lui de nous joindre, on a des trucs à lui demander. Et puis demain, on recevra Gilles Balbastre, le réalisateur Gilles Balbastre, pour un film qui sera diffusé demain soir sur France 5, à 20h35, qui s'intitule « Fortunes et infortunes des familles du Nord ». C'est deux familles, là aussi, tiens, c'est marrant, c'est un peu comme aujourd'hui, sauf que c'est les possédants et les possédés, les fortunés et les infortunés. C'est une histoire de la famille de Vavrin, une très grande famille dans les filatures de Roubaix et d'Auchel. Et puis, ceux qui ont travaillé, qui ont travaillé pour eux, parce que ces entreprises se sont délocalisées. Puis il y a une fin à ce film qui est extraordinaire, qui nous ramène à l'actualité, à la vie dans les établissements scolaires et à la répression, on peut dire répression des gamins, ce qui nous amènera au livre de Bertrand Rothet qui revisite la guerre des boutons. Voilà. Eh bien voilà, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari étaient à la technique aujourd'hui. Koye Nguyen et Raphaël Moutier ont réalisé cette émission, ainsi que Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attends vos messages au répondeur de la basse, j'y suis, 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.